Dans la première partie de l'émission consacrée au livre d'Alexandre Tabor, Les aventures extraordinaires d'un juif révolutionnaire, eh bien nous sommes partis à la rencontre d'Alexandre, de l'enfance et la petite enfance de son père et son adolescence à Odessa. Odessa, c'est aussi le lieu de la rencontre entre Sioma et Tsipora, sous les yeux d'un autre personnage très attachant aussi, Adeline Kaufmann, qui est médecin et qui a une importance dans la rencontre. Ces deux amoureux jeunes, puisque lui a 16 ans et elle 14, vont devoir se battre contre aussi deux phases des juifs, enfin deux façons d'être juifs à Odessa en 1920. Lui, enfin le Sioma, qui est d'une famille pauvre, érudite quand même, et la famille de Tsipora, qui est presque fait alliance avec les Blancs, qui se satisfait en définitive assez bien de ses rapports avec les Blancs, et surtout d'un frère qui ne veut absolument pas de cette mésalliance.
Oui, le frère faisait partie d'une organisation juive de droite, qui est devenu aujourd'hui les Likoud.
D'accord.
C'était l'origine, on appelait les Bétards, qui était l'origine du parti actuel de Netanyahou, toujours de droite.
Donc, ils vont vivre leur amour, protégés beaucoup par la grand-mère, hein, qui va les aider. Donc, Tsipora va aller vivre chez Sioma. Et puis, un jour, ils vont décider de partir en Palestine. Qu'est-ce qui a provoqué ce départ? Quelle est l'idée? Parce que là-bas, il y avait un mouvement qui s'appelait Eretz Israël, c'est
oui,
ça?
Oui, pour aller à Palestine. Voilà, mes parents, ils n'étaient pas sionistes, mais ils pensaient, à l'époque, en 1924, c'était l'arrivée de Staline au pouvoir, la mort de Lénine, les pogroms. Et au lieu de partir à New York comme la majorité des Juifs d'Odessa, qui ont d'ailleurs créé la petite Odessa à New York, ils sont partis en Palestine parce qu'ils pensaient que c'est la terre où ils pourraient vivre le socialisme. Et d'ailleurs, en Palestine, la partie israélienne, qu'on appelait les Yeshuv, était en fait des kibbutzim, c'est-à-dire des grandes collectivités où chaque personne était libre, égale, il n'y avait pas des... Ils partageaient tout, c'était égalité idéale, disons, c'est-à-dire d'avoir toutes les choses en commun. Puis il y avait des petits villages qui étaient des villages en fait coopératifs et où chacun cultivait sa terre. Et c'est ça, c'est cet idéal-là qui les a fait partir d'être dans un pays socialiste. Et ce qui était, en Israël, était un pays de gauche. Les gens comme Ben-Gourion, les dirigeants, se disaient léninistes à l'époque.
Donc, dans 1924, la Palestine, elle est anglaise, elle est occupée par les Anglais.
Voilà.
Et qui vend les... c'est des riches arabes qui vendent les terres, parce que ce qu'on n'a pas du tout compris, et c'est la base, notamment... Alors j'en parlais avec Guylaine avant de commencer l'émission, moi sur quelqu'un que je ne connaissais pas, c'est Buber, je ne connaissais pas, elle m'a tout de suite dit « le jeu et le tu », elle le connaissait très bien le texte, qui est un philosophe qui a beaucoup inspiré Buber, votre père, oui, Buber, et de cette nation, en 1924, en définitive, quand les Arabes et les Anglais ont vendu les terres aux Juifs, il y avait des Arabes qui cultivaient ces terres, voilà, qui ont été expropriées. Et tout ça, c'est très bien dit. Et Buber dit, si je me rappelle bien, corrigez-moi Alexandre, parce qu'il y a beaucoup de références, on est parti pour une guerre de 100 ans. Si dès le début, on ne met pas au clair une binationalité, c'est-à-dire une intelligence entre les Arabes et les Juifs, on est parti pour 100 ans de guerre. Or, c'est tout à fait le cas.
Oui, effectivement, Buber, qui était un très proche ami, qui a fait d'ailleurs une association qui s'appelait Alliance pour la paix, Brit Shalom, disait face à Ben-Gourion qu'il y a deux solutions, ou binationale, un pays égalitaire, démocratique, entre les Juifs et les Arabes, ou tu pars, il disait à Ben-Gourion, pour une guerre de 100 ans. Eh bien, aujourd'hui, on est à 96 ans.
On est dedans.
Des guerres, actuellement.
Et pardon.
Oui.
Et ce qui est terrible, c'est que il y avait à ce moment-là le moyen de ne pas les avoir. C'est un choix politique qui n'a pas été fait à ce moment-là.
Alors, effectivement, les grandes familles arabes qui possédaient une vingtaine de villages ou une cinquantaine de villages vendaient leurs terres aux Juifs. Pas les Anglais, mais les Arabes. Mmh. Et il y avait des grandes familles qui étaient prêtes à faire une alliance avec les sionistes. Parce qu'ils voyaient que, quand même, un certain dynamisme, une possibilité de rentrer dans la modernité. Mais il y avait aussi des gens de droite arabes, les mouftis à l'époque, qui étaient opposés, et il y avait des massacres, notamment en 1929 et en 1936.
C'est d'ailleurs une période dans le livre où vos parents sont heureux pendant ces 12 ans, parce que d'abord vous naissez en 1928, vous arrivez, ce qui est un cadeau merveilleux. Ils ont une vie très difficile, votre maman aussi à son école, justement, qui sera remise en cause après, mi-juif, mi-arabe, où justement les enfants juifs et arabes apprennent à vivre ensemble. Mais dans ce contexte difficile, sanglant, ils sont quand même heureux pendant cette parenthèse palestinienne, je trouve.
Oui, effectivement, parce que bon, nous, en tant qu'enfants, déjà grands, mais effectivement, mes parents étaient entourés d'amis, ils n'étaient pas seuls, et ils étaient heureux. D'ailleurs, je les ai toujours vus heureux. Ouais.
Vous le disiez en préambule, mais 1936, donc votre père est expulsé de Palestine par les Anglais, parce que c'était une personnalité pas gérable pour eux. Et là, c'est la partie sur la guerre d'Espagne. On pourrait en parler, on pourrait avoir une émission entière sur la description que vous faites de la guerre d'Espagne, enfin, que vous faites via le récit de votre père. Ouais. C'est absolument hallucinant. Il y a des passages dedans qui mériteraient d'être lus, on n'aura pas assez de temps pour les lire, mais qui sont formidables. La bataille de Madrid est formidable. On comprend très bien aussi l'implication des services de renseignement russes pour, en définitive, ils n'ont pas été aidés, les républicains, quoi. Je veux dire, il y avait un moment où les républicains auraient pu tenir le pouvoir contre la phalange, et il y a eu quand même, outre l'aide des Allemands à l'armée franquiste, il y avait aussi la non-aide des États, la France, on n'a pas été glorieux, les Anglais, qui n'ont pas du tout aidé les républicains espagnols, mais dont vous dites qu'il y avait quand même un manque d'organisation. Tout ça, vous en parlez très bien dans le livre. Et toute la traversée de votre père de cette guerre, c'est hallucinant, de violence. Enfin, on est dans une radio où on parle beaucoup de la retirade en ce moment, hein, c'était l'anniversaire, et c'est vrai que c'est pareil, c'est des histoires, des pages d'histoire qu'on a un petit peu oubliées, la dureté de la guerre d'Espagne, on a un peu gardé l'espoir et Malraux en tête, sans voir toute l'horreur du quotidien des Espagnols à ce moment-là, et votre père donc qui est engagé dans les brigades internationales.
Voilà. Et il a constitué en fait son unité, qu'il appelait les Palestiniens. Il voulait pas rejoindre. Il y avait une compagnie, Botwin, qui était une compagnie juive. Non, il voulait être une unité où juifs et arabes, palestiniens. Donc c'est toujours son idée de qu'ils se battaient non pas autant que juifs, ils se battaient pas autant, mais autant qu'êtres humains. Avec d'autres êtres humains qui étaient, lui, il était juif, les autres, ils étaient des Arabes. Avec Nadjati,
qui arrive à ce moment-là.
Et avec son ami de Nadjati, qui essayait aussi de convertir des Marocains qui étaient de l'autre côté, qui étaient franquistes, et qui étaient évidemment attaqués par ce qu'ils appelaient les soviétiques, par les staliniens. Et c'était une guerre terrible parce que chacun avait son armée, les anarchistes avaient leur armée, les socialistes avec leur armée, et c'est pour ça, enfin, une des raisons, la division, je dirais aujourd'hui, on dirait de la gauche, a fait que Franco, finalement...
C'est très, très, très bien expliqué. Et là aussi, il y a une série de portraits de copains, d'amis. Je pense à Ziv, enfin, je ne sais pas comment on le dit, il y a Z2EV, c'est Zev ou Ziv, qui devient tireur, alors que c'est tous des hommes formidables au début. Ils deviennent aussi, eux, des meurtriers, avec ce que ça a de lourd à porter. Quoi. J'avais juste choisi, alors il faudrait que... Tu n'en lises que quelques pages, Jean, mais il y a un personnage, là, juste ça, c'est les pages avec Marcel Florin. Qui raconte un peu justement tous ces jeunes européens qui ont été mis qui sont partis s'engager dans les brigades internationales. Et là, juste le passage de « J'ai déserté » que je trouve magnifique.
« J'ai déserté », me dit-il. « Tu veux savoir pourquoi ?»« C'est simple. J'ai enfin compris que la guerre que nous menions n'était pas une réponse à la vie. Que le mot « révolution » n'était qu'un mot. » Un mot qui ne correspondait à rien, sinon à nous entretuer communistes, anarchistes, socialistes, paysans, ouvriers, que sais-je encore. Un mot pour nous envoyer à la mort. J'ai cru combattre pour la lumière, pour un monde nouveau, pour la liberté, la justice contre le fascisme. Puis quand j'ai vu ce qu'ils ont fait à cette femme, ça m'a glacé.
Voilà, ça c'est vraiment, c'est très fort, parce qu'il n'y a aucun héros. Ce sont tous des gens qui sont des héros, pour moi, et qui pourtant ont conscience, pleinement conscience de ce qu'ils sont en train de vivre, et de l'inutilité de cette guerre. Et il y a des scènes terribles, puisqu'il y a des déserteurs, enfin des déserteurs, c'est pas des déserteurs, notamment, il y a un jeune d'une vingtaine d'années qui veut aller voir sa maman mourante, et qui se fait tirer dans le dos parce qu'il est pris pour un déserteur. Il y a une réalité, une horreur de la guerre qui est soulevée dans ce livre, soulignée, qui est formidable, qui est très émouvante. Dans la guerre d'Espagne, il y avait un personnage qui m'intrigue beaucoup dans le livre, c'est Jeanne Lève. Parce que vous en faites une mi-Beauvoir, mi-la compagne de Capa, du photographe. Elle a vraiment existé, cette Jeanne, parce que c'est un nom, c'est un pseudonyme que vous lui mettez dedans. Ouais.
Oui.
C'est une femme qui a existé ?
Oui, c'est une femme qui a existé. La famille à laquelle elle appartenait ne voulait pas...
Être qu'elle soit citée.
Que je mette leur nom... pour des raisons X, et donc j'ai gardé en fait son nom, enfin le nom qu'elle avait pris de Jeanne Lève.
C'est une femme qui est universitaire, qui est deuxième à l'École normale de Paris, quand son compagnon Paul est premier, donc ça voilà, on peut penser à qui ça peut toucher. Et en même temps elle revient, puisqu'on la rencontre à Odessa, et on la retrouve après dans la guerre d'Espagne où elle
en
va
Israël, en Israël,
où elle va mourir en plus. Vraiment, voilà, c'est une femme qui a traversé toute cette histoire aussi et qui est une femme extrêmement flamboyante. Voilà. Après la fin de la guerre d'Espagne et la déliquescence de la fin de la guerre d'Espagne, c'est terrible. Donc les armées républicaines repartent en France. Là, il y a un très beau portrait de l'accueil qu'il a fait en France. On leur donne de la soupe, on les accueille, les villageois, hein, pas l'armée française, hein, les accueille bien. Et ils se retrouvent au camp de Vernet-les-Bains, qui est assez connu. C'est vrai qu'on parle beaucoup du camp de Rivesaltes, mais celui de Vernet est connu pour son horreur. Et il réussit à s'en échapper. Mmh. Et il remonte à Paris pour un rendez-vous avec vous,
oui,
et votre maman. Sur le quai de la gare d'Austerlitz, et il n'y aura pas de rendez-vous.
Voilà. Et on était là avec un grand espoir, et lorsqu'il descendait du train, les gendarmes étaient là, et ils l'ont pris, et il est passé à côté en faisant signe de ne pas bouger, de rien dire, parce qu'on aurait pu être également pris, et c'était un moment... très dur, surtout pour ma mère. Et c'est en fait la dernière fois qu'elle a vu son homme.
Elle va s'engager dans la résistance avec le colonel Gilles, qui sera fusillé avec la fiche rouge, avec Manoukian. Et après, il va la prendre très longtemps après l'histoire de votre mère, qui donc fait de la résistance, est arrêtée.
En
42, et donc à Auschwitz, elle sera internée à Auschwitz, déportée. Pendant un petit bout de temps, elle va réussir, avec un courage absolument hallucinant, à s'en tirer, à rendre des services. Comme elle parlait plusieurs langues, elle est utilisée. Et jusqu'au moment où elle attrape le typhus.
C'est ça.
Et là, elle va faire partie des gazés parce que les femmes malades vont toutes être gazées. Les Allemands sentant les armées de libération arriver, jusqu'au dernier moment, quand même, on fait l'horreur. Oui, c'est... Le passage est aussi très, 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 très fort. Et votre papa va le savoir très tard, en définitive.
Oui, il l'a su. Il était en mission en Israël pour faire reconnaître Israël après la guerre par l'Union soviétique. Et lorsqu'il a terminé sa mission en 1946, il est parti à notre recherche. Et c'est là qu'il est allé voir Osé, toujours cette œuvre, et c'est là qu'il a appris que Tzipora a été déportée est morte à Auschwitz.
L'histoire d'amour entre Sioma et Tzipora, elle est très très forte. D'abord, ils sont connus adolescents, ils ne se sont pas vus beaucoup en définitive, mais il y avait quelque chose de charnel, de très fort entre eux, il y avait vraiment un amour très fort. Vous évoquiez le passage justement où il repart en mission, donc... Par ce personnage qui est intéressant et sympathique d'ailleurs, ce
Boussakov.
Oui, qui va le chercher en me disant est-ce que la Russie va soutenir ou pas la création de l'État d'Israël ? C'est un peu pour ça qu'il repart là-bas, il accepte pour essayer que tout ça se passe bien. Et en effet, les Russes, si j'ai bien compris, vont finir par ne pas le soutenir, cette création de l'État juif.
Là, il avait peur parce qu'il avait beaucoup de camarades, notamment. Son commandant Kléber et d'autres qui sont rentrés en Union soviétique ont été soit fusillés à la descente du train, soit déportés en Sibérie. Donc lorsque Roussakov, qui avait connu, qui faisait déjà partie de la sûreté à Odessa, est venu lui demander de partir en mission pour le comité, enfin, sous le couvert du comité juif antifasciste que Staline avait créé pour amadouer les Américains, donc les Juifs américains. Et donc, il a beaucoup hésité. Et finalement, il a été convaincu, donc il est parti à Moscou. Il est resté très peu de temps, une quinzaine de jours, hein, et il est reparti donc en Palestine avec deux diplomates russes, donc et pour effectivement préparer la reconnaissance de l'URSS. C'est effectivement, l'Union soviétique était le premier pays au monde qui a reconnu Israël. Les Américains l'ont reconnu bien plus tard.
Votre père, avec ce qu'il a vécu quand même à travers la guerre d'Espagne, la Shoah, la construction d'Israël, les trahisons, enfin, il y a tellement de trahisons et dans ce livre. Comment il était en 58 quel regard il avait sur l'être humain, sur tous ces gens, tout ce à quoi il avait cru et qu'on avait démoli devant lui systématiquement, quoi. Enfin, cet homme qui était tellement plein d'envie que la terre soit belle, que les gens soient heureux, que les Arabes et les Juifs vivent ensemble. Enfin, qu'est-ce qu'il vous en a dit en 58 de ça?
Oui, eh bien, il y avait Budapest. Donc, il voyait que ce qu'il craignait déjà en Espagne, lorsqu'il a... Il a vu les soviétiques, les staliniens, etc. Ils étaient déjà anti-staliniens. Ils disaient toujours « je suis communiste », c'est-à-dire le commun, ce que Marx appelait le communisme, mais je ne suis pas stalinien. Par contre, il était très attaché à l'Union soviétique. C'était son pays, c'était la Russie. Eh bien, il avait toujours... Il m'a parlé d'Héraclite, l'espérance de l'inespéré. Il y avait toujours un jour où vous allez vivre l'inespéré. Et l'inespéré, pour lui, c'était un monde meilleur. Donc il y croyait toujours et il pensait qu'il fallait continuer à se battre. Et même, il pensait de revenir en Israël, éventuellement, mais je lui avais demandé, tu veux te battre? Mais il a dit oui, mais avec toi. Alors j'ai un peu hésité, puis je lui ai dit, tu es bien sûr que c'est avec moi que tu... Il a dit oui, et donc on était d'accord, j'étais très heureux de mener le combat. Il y avait déjà des amis qui étaient aux États-Unis, enfin des anciens d'Espagne, qui sont venus.
Et d'ailleurs, c'est la fin du livre, parce que ces retrouvailles en 58 n'ont pas duré très très longtemps, puisqu'hélas, il est mort en 59. Vous racontez cette mort. Justement, vous êtes chez Alma, il doit venir, il ne vient pas. Elle vous dit qu'il est hospitalisé pour une crise cardiaque. Et votre belle-mère, parce que bon, on peut l'appeler comme ça, Léa, vous interdit de le voir. Donc ça sera une douleur, je pense, définitive pour vous, de ne pas avoir partagé ce moment-là avec votre père. L'après, comment on vit les confidences? Parce que j'imagine, moi je me suis imaginé cette année avec lui, à vous balader sur les bords de Seine, il vous a raconté comme ça. Moi je me suis fait mon film, là, complètement sur vos échanges entre votre père. Et puis ces projets que vous aviez ensemble, et puis tout s'arrête. Faut repartir après, quoi, pour une vie... vous n'aviez que 30 ans.
Oui, je dois dire que j'étais très bien entouré par Gruson et Simon Nora, qui dirigeaient le centre d'études d'analyse économique du Trésor. Et il y avait dans l'équipe deux personnes... un normalien qui s'appelait Nataf, un polytechnicien qui s'appelait Meyer. Bon, je ne suis pas rentré dans le détail, dans cette version, qui m'ont beaucoup soutenu et qui m'ont permis d'aller en Israël et d'apprendre à la mère de Sioma, à ma grand-mère, la mort de son fils.
Il nous reste une minute, Alexandre. Et la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi avoir attendu 60 ans? Vous avez une minute pour nous le dire. Pourquoi avoir attendu autant d'années avant d'avoir envie de l'écrire, avant de pouvoir l'écrire? Donc j'ai un peu compris qu'il y avait un problème de langue. Voilà, mais qu'est-ce qui vous a poussé tout d'un coup et pourquoi avoir attendu 60 ans?
J'avais peur. Oui, c'est difficile à dire en une minute. J'avais peur de revivre tout ça, d'une part, mais je l'ai raconté, notamment à ma petite fille, qui m'a dit, écoute, grand-père, il faut absolument que tu l'écrives. Elle m'a tellement poussé à l'écrire, et j'ai commencé à l'écrire, et c'était pour moi, en fait, une manière de, j'allais dire, moi-même, de rester en vie. C'est-à-dire, l'écriture m'a, et toujours, m'a sauvé.
Ben c'est sur ces très beaux mots qu'on va se quitter. Je rappelle le titre de votre livre, « Les aventures extraordinaires d'un juif révolutionnaire » aux éditions Temps Présent, préfacé par Edgar Morin. Je vous engage vraiment, vraiment à lire ce livre, et qui est foisonnant. On n'a pas dit le dixième de ce que vous allez trouver dans ce livre. Merci, Jean Gebseden. Je n'ai pas écorché votre nom, là. C'est bon ?
Non, oui, cicatrice, très bien.
Et merci infiniment, Alexandre Attabor, d'être venu partager ce moment de vie, ce livre, et on aurait eu 10 émissions derrière aussi passionnantes.
Et merci, merci beaucoup de m'avoir invité.
Merci. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.